Méditation biblique. Au micro, Jacques Marchal.
Le Seigneur même, Père suprême, le Seigneur même, il est amour. Je veux dire que je le Seigneur même, il est amour.
Chers auditeurs, bonjour. Souvent été comparé à un pont jeté entre les évangiles et les différentes épîtres. On pourrait dire, si l'on voulait résumer les évangiles, qu'ils racontent la vie et le ministère terrestre de Jésus et qu'ils se terminent par le récit de sa résurrection et de ses apparitions aux disciples. Cependant, les quatre évangiles laissent un tant soit peu leur lecteur sur sa fin, en lui donnant l'impression que tout cela n'est pas terminé, car ils réalisent que certaines prédictions ne se sont pas accomplies. De plus, l'Évangile se termine par les instructions suivantes que Jésus donne à ses apôtres. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Mais ont-ils rempli cette tâche? Sont-ils partis de par le monde pour prêcher Christ? Jésus promet de fonder son Église et donne ses directives en ce qui nous concerne, et en ce qui concerne, entre autres, la conduite à tenir vis-à-vis du membre de cette Église qui, ayant péché, doit être repris, puis exclu de l'Assemblée au cas où il ne se repentirait pas. Mais les Évangiles ne parlent pas de l'établissement de cette Église, alors. Les Évangiles citent également la promesse de Christ d'envoyer le Saint-Esprit pour guider ses apôtres. Il dit « J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Mais une fois encore, les évangiles se terminent sans pour autant que cette promesse soit remplie. Tout cela est donc virtuellement incomplet. Et nous pourrions même aller jusqu'à dire qu'un genre de fin non assouvie saisit celui qui vient de terminer la lecture de ce récit. Qu'est-il arrivé après? Telle est la question. Dès qu'on entame l'étude, ou même la lecture des épîtres adressées à des assemblées ou à des chrétiens, on remarque que les sujets qui y sont traités leur sont familiers. Or, les évangiles n'éclairent nullement le lecteur en quête d'informations ou de réponses à propos de ces sujets. Je m'explique. La première des épîtres, ainsi d'ailleurs que la plupart des autres, ont été écrites par un apôtre nommé Paul. Pourtant, son nom ne figure nullement sur la liste des 12 que donnent les évangiles. D'où est-il donc sorti? Quand est-il devenu apôtre de Jésus? L'évangile n'en dit rien, et les épîtres ne nous donnent pas non plus le récit complet de sa conversion. En Colossiens, chapitre 1, verset 23, Paul écrit que l'Évangile a été prêché à toute créature sous le ciel. Cette affirmation est faite seulement 30 ans après que Jésus ait donné la grande commission à la fin de l'Évangile. Le Seigneur n'avait que relativement peu de disciples quand il quitta cette terre, et on peut dire qu'il n'était pas bien influent. Dès lors, comment ces enseignements se sont-ils répandus si vite et avec une telle amplitude? Les épîtres nous disent également qu'il existait des églises locales en Asie mineure et que leur nombre s'accroissait jusque sur le continent européen. Où et comment ces assemblées ont-elles été établies? Une fois de plus, il serait vain d'interroger les épîtres, car elles n'en disent absolument rien. Le nom de chrétien est porté par tous ceux qui suivent les enseignements du Fils de Dieu. C'est notamment l'épître de Paul qui le dit, de Pierre qui le dit, pardon. Mais qui leur a donné ce nom? Et quand ont-ils commencé à le porter? Telles sont certaines des questions typiques dont on peut se servir pour démontrer que les épîtres, il y en a 21, se réfèrent à certains faits sur lesquels elles ne donnent elles-mêmes aucune explication. Tout ceci nous fait saisir immédiatement l'importance que revêt le livre des Actes. Il nous relate en effet les résultats de l'application de cette grande commission que Jésus avait donnée à tous ses fidèles. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ils avaient obéi sans hésiter à cette injonction. Ils avaient posé le jalon pour la rédaction des épîtres. Et nous apprenons toujours par le livre des Actes que l'Église avait été établie le jour de la Pentecôte, et qu'immédiatement après cela, le Seigneur commençait à y ajouter tous ceux qui avaient obéi à son évangile. Le Saint-Esprit était descendu sur les apôtres précisément ce jour-là et avait commencé à les guider dans toute la vérité. Il leur avait rappelé avec perfection tout ce que Jésus leur avait enseigné, et cela dans le moindre des détails. Le Christ, tout de suite avant son ascension, leur avait dit, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Le deuxième chapitre des Actes commence par ces mots. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. À partir de ce moment-là, le livre des Actes tout entier ne sera plus qu'un récit réaliste, mais extraordinairement enthousiaste de ce que la prédication de l'Évangile accomplit dans le cœur de multiples personnes. Ce merveilleux esprit évangélique dont est empreinte l'Église primitive est merveilleusement décrite dans le chapitre 8, qui parle du moment où, après la mise à mort d'Étienne, les chrétiens de Jérusalem commencent à être persécutés. Il dit entre autres que ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Oui, une grande partie du livre des Actes est consacrée à la description de la vie et du ministère de l'apôtre Paul, qui nous est tout d'abord présenté comme étant Saul, le jeune et brillant juif qui persécute l'Église, dont il va devenir un des meilleurs instruments moteurs. Nous suivons ensuite, au fil des pages, la diffusion de la doctrine de Christ pour faire connaissance avec l'assemblée d'Antioche, située en Syrie et composée principalement de gentils. Les Actes affirment, ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Oui, le livre des Actes répond à toutes ces questions. La disposition du Nouveau Testament tout entier commence à prendre maintenant une nouvelle signification, ne pensez-vous pas? Les Actes des apôtres continuent alors à nous décrire ce qui a en fait provoqué le début de sa création et va nous mener vers un meilleur discernement des épîtres qui, elles, ont pour objectif majeur de convertir les gens. L'auteur des Actes est également l'auteur de l'Évangile selon Luc, car il dit en guise d'introduction, « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé du ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. » Les Évangiles nous parlent de ce que Jésus a commencé à faire et à enseigner. Et le livre des Actes nous raconte quant à lui comment son travail a été poursuivi par les apôtres. Un bref résumé de ce livre va maintenant mieux nous faire réaliser l'importance qu'il revêt. Vous vous souvenez certainement que les instructions de Jésus aux apôtres stipulaient « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Les sept premiers chapitres des Actes décrivent le travail accompli par l'Église à Jérusalem. C'est là qu'elle fut fondée. C'est là aussi que le Saint-Esprit descendit sur les apôtres et que plusieurs milliers de personnes obéirent à l'Évangile et furent baptisées. Ensuite, l'Église fondée par Jésus et sur Jésus entre en conflit avec le sang des derniers juifs. Finalement, Étienne est assassiné et les persécutions commencent. Dans le chapitre 8 à 12, le Saint-Esprit nous montre comment l'Église de Jérusalem est dispersée à cause de ces persécutions. Philippe se retrouve en Samarie, et convertit également l'eunuque éthiopien. Saul de Tarse, dont nous avons parlé tout à l'heure, obéit à l'évangile de Christ, puis les gentils sont admis dans l'Église au même titre que les Juifs. Ensuite, dans les chapitres 13 à 28, nous voyons l'Église se répandre comme une véritable traîne de poudre en Asie mineure, en Macédoine, en Grèce et à Rome. En quelque sorte, c'est ça, le livre des Actes. Mais bien sûr, il faut ajouter à cela quelques idées, quelques notions fondamentales pour résumer également les enseignements doctrinaux des Actes. Premièrement, Jésus y est prêché avec force comme étant le Messie tant attendu, et ceci est largement prouvé aussi bien par l'accomplissement des prophéties que par sa résurrection d'entre les morts. Deuxièmement, le Saint-Esprit descendu le jour de la Pentecôte est la source directe de la révélation divine qui guide les apôtres dans leur prêche. prédication. Troisièmement, la dispensation mosaïque tout entière se trouve accomplie par la mort de Jésus qui va ouvrir le monde à une loi spirituelle et qui, par voie de conséquence, supplante la loi donnée à Moïse. Quatrièmement, le salut est prêché au nom de Jésus et peut être obtenu par l'homme au moyen d'un processus qui se nomme la conversion. Et enfin, cinquièmement, les promesses de l'Évangile s'adressent à tous ceux qui se conforment aux conditions du pardon, et cela en dehors de toute notion de nationalité, de condition ou de secte. J'espère que les actes des apôtres représenteront bien plus que cela pour vous à l'avenir. Cette relation vitale des moyens par lesquels l'homme a été admis dans le royaume de Dieu, de l'histoire du début et de l'expansion de ce royaume, peut servir de guide à votre salut éternel. Comme nous pouvions nous y attendre, la grande commission donnée par Christ à ses apôtres est devenue, par leur prédication dans le livre des Actes, un véritable plan destiné à la conversion de tous. Puisse Dieu hâter le jour où, au pécheur qui s'enquiert, sera à nouveau donné ce plan divin, en utilisant les mots mêmes des apôtres au lieu de vaines paroles humaines. Marc utilise les mots suivants pour cette mission sacrée. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Luc dit que la repentance doit également être prêchée à toutes les nations. Vous pouvez lire dans le livre des Actes au chapitre 2 que tous ceux qui étaient présents le jour de la Pentecôte avaient obéi à cause de la prédication des apôtres et que pour les convaincre, ces derniers avaient utilisé les mots mêmes du Christ. Repentez-vous et soyez baptisés pour le pardon de vos péchés. Ceci représente peut-être la chose la plus importante à propos du livre des Actes. L'Évangile nous enseigne de croire en Christ. Les Actes, comment nous pouvons obéir, et les Épîtres, la manière de vivre en véritable chrétien. Vous venez d'entendre une émission de méditation biblique au micro Jacques Marchal. Faites-moi part de vos idées, de vos suggestions sur ce que vous venez d'entendre. Je vous répondrai personnellement, je vous le promets. Je peux également vous envoyer le texte intégral de cette causerie. Gratuitement, en tant qu'âme, nous n'avons absolument rien à vendre. Mais qui sommes-nous? Des chrétiens qui ne portent pas d'autre nom et ne sont rattachés ni à une organisation centrale, ni à une secte quelconque. Notre unique règle de foi et surtout de pratique est le Nouveau Testament. Notre unique chef est Jésus-Christ. Seuls ses enseignements et ceux des apôtres font autorité dans nos vies. Nous parlons de ce que la Bible dit et demeurons silencieux à propos de ce qu'elle n'enseigne pas. Écrivez à Jacques Marchal, 6 rue Étienne Falconet, 31-130 Balma. Je répète, Jacques Marchal, 6 rue Étienne Falconet, 31-130 Balma. Au revoir, que le Seigneur vous garde, et à lundi prochain, 9h. Le Seigneur.